le chagrin comme de gros nuages noirs, comme une histoire sans fin. Tu vis dans un cauchemar sans réveil, sans matin. Et personne ne viendra, personne ne te sauvera. Pour toujours on oubliera la princesse qui était en toi. Et tu n'attends plus rien, ni des médias, ni de l'État. Tu es seul et tu vas mourir ici comme une paria. À toi la petite écolière de Fukushima. Ceux qui ont détruit ta terre s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima. Tu n'as que 12 ans, 12 ans, mais déjà le mal est en toi. Petite écolière de Fukushima. Ceux qui ont détruit tes rêves s'appellent TEPCO et Areva. Petite écolière de Fukushima. Je préférerais oublier, mais je pense à toi.
C'est la règle, c'est la loi, c'est la jungle, c'est comme ça. Si tu penses autrement, t'es fou, t'es dingue, t'es hors de là. Pauvres rêveurs marginaux, voilà ce que nous sommes quand on leur parle d'une nouvelle règle, d'une nouvelle donne. Au début, ils t'ignorent, ensuite ils te raillent. Un jour, ils te combattent et ce jour-là, déjà, tu gagnes. Oh, 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 on met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Song de Vans Utopie,
disent que ça n'en vaut pas la peine. Oh, 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 aïe.
On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines.
Oh, 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 aïe.
Ils disent que c'est un song de Vans Utopie,
disent que ça n'en vaut pas la peine.
Disent que ça n'en vaut pas la peine.
Thank you. podcast. Nos cerveaux excitent à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Mickey.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, et c'est l'émission Idéaux et Débats du jour qui commence. C'est déjà la deuxième émission de cette rentrée littéraire, avec encore aujourd'hui un grand bonheur, puisque nous allons vous proposer d'écouter une interview réalisée avec quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission. On lui est fidèle de livre en livre, et ceci depuis des années et des années. Il s'agit d'Agnès de Sarthe, et Agnès de Sarthe qui nous revient avec un très beau livre paru aux éditions de l'Olivier, livre intitulé « Le château des rentiers ». Donc ce sera la première partie de cette émission, cette interview d'Agnès de Sarthe. Et puis ensuite, nous entendrons Gérard Guégan qui revient avec sa chronique mensuelle. Et pour cette chronique, Gérard Guégan nous parlera de deux ouvrages. Le premier, il s'agit d'un livre intitulé « Le Bada » de Bernard Stora qui est paru chez De Noël. Et le second, c'est un livre consacré à Jean de La Fontaine qui est paru au Cherche Midi et qui a été écrit par Jean-Michel de La Comté. Voilà pour le programme de ce jour. On retrouve tous de suite Agnès de Sarthe pour Le Château des Rentiers paru aux éditions de l'Olivier. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, l'émission Idéaux et Débats, et avec le plaisir de retrouver en vrai Agnès de Sarthe pour un nouveau livre qui est paru aux éditions de l'Olivier, un livre qui s'appelle « Le château des rentiers ». Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Moi, j'ai adoré ce livre, mais je crois qu'il est important de dire d'emblée pour nos auditeurs pourquoi ce titre, « Le château des rentiers ». Parce que, bon, là, si on commence à parler de rentiers sur Radio Libertaire, où va-t-on,
ouais, franchement. Exactement. Alors, en fait, c'est des rentiers d'un genre assez particulier, puisque « Le château des rentiers », c'est le nom d'une rue de Paris, dans le 13e arrondissement, dans un quartier qui a été extraordinairement abîmé par je ne sais pas exactement quoi, en fait, la reconstruction de Paris. Enfin, en gros, ils ont rasé toutes sortes de vieux quartiers périphériques qui étaient assez charmants, que moi j'ai connus entre 0 et 5 ans, pour les remplacer par des champs de tours très très laides et souvent assez mal conçus. Mais il se trouve que dans une de ces tours, très laides et assez mal conçu. Deux personnes ont eu l'idée d'acheter dans les années 60, à la fin des années 60, un petit appartement de deux pièces. Et ces deux personnes, c'était mes grands-parents, Boris et Tsila Jampolsky. Et ils ont décidé d'acheter là, sur plan. C'était le rêve d'une vie, pouvoir devenir propriétaire. Bon, c'était énorme, quoi. Mais ils avaient une soixantaine d'années. Et ils étaient tous les deux des immigrés qui venaient de Moldavie. Chacun des deux avait perdu, pour lui, sa compagne, pour elle, son mari, en camp d'extermination dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était un second mariage. Et donc, ils ont acheté ce petit appartement. Et pourquoi j'ai donné le nom de cette rue à ce roman, à ce livre, parce que j'ai été menée par le temps, par l'âge, par les rêveries, à me questionner sur l'avenir. Et donc l'avenir de l'homme, c'est la femme, mais comme on l'a dit sur Aragon, mais c'est aussi la vieillesse. Yes. c'est dans un autre style. Mais donc je me suis dit, tiens, j'ai repensé à ce qu'avaient réussi par hasard à construire mes grands-parents, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont acheté ce petit appartement, ils ont dit à leurs copains, plein de copains, des Moldaves comme eux, des anciens déportés, des gens dont le poignet était tatoué, qui s'en étaient sortis quand même, venez, vous aussi, venez acheter dans cette tour, c'est bon marché, c'est je sais pas quoi, j'en sais rien, c'est pratique. Et donc, ils ont été toute une bande, toute une tribu à devenir propriétaires dans la même tour. Ce qui fait qu'au lieu que ce soit un endroit sinistre, comme pouvait l'être plein d'endroits de ma petite enfance, et triste et froid, c'est exactement le contraire. C'était l'appartement de mes grands-parents. Il y avait la porte toujours ouverte parce qu'il y avait toujours un voisin, une voisine qui débarquait pour échanger des recettes de cuisine, pour jouer aux cartes, pour revenir sur la partie de cartes de la veille qui n'avait peut-être pas été jouée super réglo. Et en fait, moi, j'ai connu non pas un appartement de grands-parents, mais une communauté de gens qui étaient entre amis et qui ont vieilli et vécu toute la dernière partie de leur vie entre amis. Et j'avais jamais vu, j'y avais pas vraiment pensé avant, pour moi c'était normal, mais après, en avançant en âge et en voyant beaucoup de gens dont les parents vieillissaient dans une grande solitude, ou des amis qui eux-mêmes étaient âgés et qui étaient dans une grande solitude, j'ai repensé à mes grands-parents et j'ai interrogé ce qu'ils avaient vécu. Et donc je me suis tournée vers le passé pour essayer de fabriquer un petit bout d'avenir intéressant.
Oui, parce que le projet dans le château des Rentiers, c'est effectivement d'envisager la vieillesse et de l'envisager dans une espèce d'utopie communautaire qui serait une sorte de château des Rentiers dans un habitat collectif et pour pouvoir vieillir tous ensemble, un peu dans l'esprit phalanstère.
Ce serait, comment dire, très arrogant de ma part de dire que c'est une idée que j'ai eue ou que j'ai inventée. C'est une idée non seulement qui a éclos, qui ne m'a pas attendu pour éclore, mais qui en plus est réalisée. Il y a plusieurs endroits de ce type-là qui existent en France et ailleurs. Donc de l'habitat collectif. Il y a toutes sortes d'initiatives très intéressantes qui se sont développés et qui fonctionnent bien, mais de toute façon c'est pas un livre mode d'emploi, c'est certainement pas c'est pas un livre de développement collectif, non. À l'inverse du développement personnel, c'est plus une réflexion sur ce que c'est que vieillir, sur ce que c'est aussi que l'amitié, la durée de l'amitié. Vivre ensemble, est-ce que qui voit qui vieillir, est-ce qu'on se voit vieillir soi-même, est-ce qu'on voit nos amis vieillir, et aussi c'est l'essai d'une construction d'une utopie qui est une utopie pratique par certains points, c'est-à-dire rêver à ma façon de le faire ou à notre façon de le faire. Ça mène à se poser des tas de questions, c'est-à-dire qui on choisit, qui vient, qui paye,
Le troc, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a échangé?
Voilà, peut-être, oui, voilà, on parle du troc. Il faudrait qu'il y ait des jeunes qui viennent, mais comment les faire venir? Donc, ça pose toutes sortes de questions, mais qui sont aussi l'occasion de raconter d'autres histoires. Et puis, c'est aussi un livre qui lui-même est une sorte de château mental. C'est-à-dire que c'est aussi, comment dire, l'essai de fabrication d'un lieu qui n'est pas forcément un lieu physique, mais qui est déjà un lieu mental, ouais, où se projeter,
oui,
et où réfléchir à ce qu'on va devenir, et à ce qu'on va devenir seul, ou à ce qu'on va devenir ensemble. Donc c'est aussi une proposition, qui se fait passer pour une proposition pratique, mais en réalité c'est une proposition poétique.
Ouais.
Voilà.
I'd be out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
De l'imaginaire est extrêmement importante. Elle intervient à tous les niveaux. Elle intervient dans le projet. Elle intervient aussi dans ce rapport à la vieillesse, dans imaginer sa vieillesse. Qu'est-ce que c'est qu'être vieux? Quel sens ça a? Qu'est-ce que c'est que l'âge? Qu'est-ce que c'est que le temps? Elle intervient aussi, la dimension imaginaire, dans le processus d'écriture. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement on imagine plutôt qu'on se documente. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Alors, on va commencer peut-être par le premier, qui est qu'est-ce que c'est qu'être vieux?
C'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure qu'on le vit. Et déjà, il y a mille manières d'être vieux. Moi, je me souviens que quand j'étais en terminale, il y avait des gens qui étaient déjà vieux dans ma classe. Et dont j'avais l'impression qu'ils étaient décalés dans le temps et qu'ils se rencontreraient vers 75-85, et que là ils seraient en plein épanouissement. Ce serait merveilleux parce qu'ils seraient enfin en cohésion
avec leur âge.
Donc il y a toutes sortes de manières de vivre l'âge et de le manifester, mais ce qui me frappe moi dans le vieillissement, c'est qu'il est inimaginable avant d'y être. Alors, ce qu'on voit, c'est l'extérieur. Quand on est jeune, on voit effectivement que le bord des yeux s'affaisse, les rides, je ne vais pas faire une collection, on la connaît, les cheveux, toutes sortes de la lenteur, le regard, toutes sortes de choses se perdent. Mais il y a des choses qui ne se perdent pas du tout. Et il y a une forme d'ironie, presque une ironie dramatique, entre ce qu'on est capable de vivre quand on a accumulé les années d'expérience et ce qu'on est incapable de vivre, parce que ces années d'expérience sont aussi des années qui ont usé notre corps. Et ce décalage, moi, je le prends de manière amusante. Je choisis d'en rire. Et avec cette image que j'utilise, qui est l'image que m'avait procurée un ami qui est un écrivain, un metteur en scène et excellent musicien, et qui un jour, alors qu'il jouait de la guitare et il en joue merveilleusement bien, il avait peut-être 45 ans quand il a dit ça, il jouait de la guitare, il a dit « Oh là là, mon niveau de guitare de maintenant, avec mes années quand j'étais en colo, ce serait quelque chose d'extraordinaire. » et il faisait en imaginaire coïncider son moi de 15 ans avec son niveau de guitare de 45.
Ouais, tout se rêvait de ça.
Et moi, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, mais c'est exactement l'histoire de notre vie. C'est-à-dire qu'en général, on est capable de vivre les choses qu'on vit une fois qu'il est trop tard pour les vivre. On serait sûrement d'excellents parents à 60 ans. C'est peut-être pour ça que les grands-parents sont souvent de très, très bons éducateurs. Alors que quand la première fois qu'on a des enfants, on fait n'importe quoi parce qu'on ne sait pas le faire. Et puis on le sait une fois qu'on l'a fait. Donc malheureusement, et c'est ça la vie. On sait vivre.
Oui, c'est ce que vous dites. Oui. Il n'y a pas de brouillon.
On sait vivre une fois qu'on a vécu. Et ah zut, mais c'est fini.
Il est trop tard.
C'est trop tard. Donc il y a beaucoup de... Donc c'est ça aussi, vieillir, c'est... disons que j'essaye de tourner l'objet, c'est-à-dire une fois qu'on a dit maintenant qu'on sait comment on fait, c'est trop tard, je reviens sur oui, mais quand même on sait comment on fait. Et il y a un plaisir de ça et il y a une joie d'y être.
Oui, on dirait que
voilà, et on peut, et aussi la manne et la rente, puisqu'il s'agit aussi, parce que ce titre, je le décline.
Ben, bien sûr.
Merci à mes grands-parents d'avoir choisi un lieu aussi porteur de sens. Parce que je me pose des questions sur cette rente, et je me dis qu'est-ce que c'est notre rente. Et c'est vrai que notre rente, pour peu qu'on travaille l'imagination, et on n'a pas besoin de faire d'énormes efforts pour y arriver, c'est le trésor du souvenir. Et sans nostalgie, c'est vraiment, les images apparaissent, c'est très... C'est un exercice qu'on peut faire presque comme on inspire, comme une inspiration. On se dit, allez, tiens, je me remets, côte bretonne, 3 ans et demi, j'ai mon petit maillot jaune à fleurs, j'y suis.
Mais oui, mais
il a été vécu, ce moment, donc. Il est revivable à l'infini.
Voilà. Et c'est ça aussi qui fait que être vieux, entre guillemets, c'est très relatif. C'est qu'on est un petit peu comme des poupées russes. On a tous les âges en nous. Et on peut, à tout moment... déjà, on ne se pense pas forcément vieux, à part, effectivement, les limitations physiques. Mais quand on pense, on n'a pas d'âge. Et on peut convoquer aussi bien la petite fille que l'adolescente, que la jeune adulte, que la femme, que la mère, que la femme âgée qu'on sera. Et ça, on peut jouer avec tout ça. L'imaginaire permet de faire tout ça. Et la sensorialité, parce que ce qu'on évoque là, c'est des moments très sensoriels aussi.
Oui, et qu'on atteint... qu'on atteint très facilement, et le fait qu'on soit très proche de tous nos âges, que non seulement tous nos âges soient en nous, mais qu'ils soient aussi très faciles d'accès. J'avais commencé à me dire ça il y a plusieurs années, mais justement à travers l'écriture, je m'étais dit tiens, on représente très souvent le temps par une droite, une ligne droite, comme une flèche pour les frises chronologiques. On a vu ça depuis qu'on est petit, l'histoire avec,
ouais.
Voilà, qui est un trait avec le roi un tel, le roi un tel, et la révolution. Et on voit ça.
Cette espèce de causalité,
voilà,
en plus.
Et puis aussi, c'est rectiligne. Ouais. Et je pense que ça formate.
Ouais, ça nous fige.
Et ça fait que cette image-là nous reste. C'est une image qui est très frappante. Alors que plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression que le temps, pour le temps humain, le temps d'une vie est une bobine. C'est-à-dire qu'on est enroulé autour de soi-même. Mais si vous prenez une bobine de fil, la distance, si vous déroulez entièrement le fil, il fait plusieurs kilomètres, ouais, entre un bout du fil et l'autre, ou une pelote de LED ou une bobine. Mais si vous mesurez ce qu'il y a entre le centre de la bobine et son extérieur, il y a en général 1,5 cm, c'est tout proche. Et donc, on est tous, pour moi, à 1,5 cm du bébé qu'on a été, mais en même temps, à très très loin. Ouais. Donc je joue avec ces échelles aussi dans ce livre, c'est-à-dire que je joue avec cette élasticité étonnante, et j'essaye d'être le plus possible en adéquation avec la bobine et en distanciation de cette représentation en droite, rectiligne, sur laquelle on ne peut pas revenir.
Le ciel est bleu, il y a du vent, mais rien n'y paraît. C'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Je t'aime, c'est fou quand même. La plage est typique, mon romantique, je l'oublierai jamais, c'est un moment parfait. Tam 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 tam, tam 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 tam, tam 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 tam, tam 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 tam, tam 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 tam. Ni souvenir, ni avenir, un oiseau passe, chante Montparnasse, poule un capolinaire, bien sûr qu'il peut le faire. Tout nu, dans l'eau, sur le dos, je vois un nuage, c'est un mirage, c'est un moment parfait, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais.
Alors ça, c'est la manière individuelle d'appréhender effectivement le temps, le rapport à l'âge et à la vieillesse, mais on ne vit pas seul, on vit dans une société, et il y a le regard des autres, oui, aussi, et l'influence du regard des autres. Et dans Le Château des Rentiers d'Agnès de Sarthe, paru aux éditions de l'Olivier, ce regard des autres, on le retrouve à plein de moments, aussi bien au travers des cœurs de ces personnes qui sont interrogées sur leur rapport à la vieillesse, aussi bien sur des questionnements personnels, sur le fait de qu'est-ce que ça fait de ne plus être touché, parce que c'est quand même la seule période de sa vie où on n'est plus touché. Plein d'éléments comme ça, cette espèce de stigmatisation des personnes âgées dans une société qui est plutôt jeuniste. Voilà, il y a plein d'échos comme ça qui s'entremêlent.
Et aussi parce que comme je voulais surtout pas que ce livre soit théorique,
oui,
je fais intervenir toutes sortes de procédés qui animent la narration, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une narration qui porte l'ensemble, qui est comme le fil rouge, et puis il y a des dialogues de moi-même,
intérieur, oui.
Moi et moi-même qui discutons du bien fondé de toute cette histoire.
Oui, il y en a une qui est d'ailleurs un peu
qui est plus répressive que l'autre.
Oui, oui, oui.
Et puis il y a le cœur, qui est donc un ensemble de voix, qui sont des voix de personnes âgées qui manifestent de leur expérience, qui sont très diverses, Et ça, c'était important pour moi qu'on n'ait pas une vision univoque de l'âge, parce qu'il y a tellement... Alors, il y a déjà la génétique qui intervient. Il y a des personnes qui, par exemple, ne souffrent jamais. Mmh. Enfin, souffrent si elles tombent, mais sinon elles n'ont aucun, elles ont moins de dégénérescence que d'autres. Il y en a qui souffrent très précocement, il y en a qui souffrent de dépression, il y a toutes sortes de façons de, et il y en a qui sont à la fois qui ont mal partout mais qui sont très contents qui ne reviennent pas d'être là et qui se trouvent que c'est dû à un bénéfice extraordinaire. Il y a les vieux qui détestent les vieux. Il y a toutes sortes de manières, et je voulais aussi que ce soit, c'est-à-dire, je sais que par exemple j'ai été et je continue d'être extraordinairement agacée par les discours sur les jeunes. Les jeunes sont comme ci, les jeunes sont comme ça, les ados, et c'est toujours pour dévaloriser.
Enfin, tout ce qui veut faire rentrer dans...
Voilà, les catégories, l'assignation, je trouve que c'est la prison...
Insupportable.
Vraiment une prison dont il devrait être tellement facile de s'échapper. En plus, c'est une prison qui n'a pas de barreaux, mais qui est extraordinairement coercitive. Et donc là, je voulais éviter ça aussi. Éviter d'être dans un discours sur la vieillesse. Parce qu'il n'y a pas la vieillesse, ça existe pas.
Ah non, il y a des individus.
Il y a des individus, et donc chacun manifeste. Donc je voulais qu'on entende ses voix. Et ça, c'est une façon un peu de déjouer à la fois la théorie, le didactisme que j'aurais trouvé extrêmement malvenu et pesant, et puis aussi l'uniformité de ton, de faire intervenir d'autres voix que la mienne, c'était important. Mais il y a cette question du regard qui est toujours présente. Alors la question du regard, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas vieux, mais tout à coup, un regard, rien suffit à vous signaler que... Ah, si, en fait. Donc, ça, c'est une drôle de chose avec laquelle il faut travailler. Mais il y a aussi le regard des contemporains sur leurs contemporains. Et par exemple, je sais que une personne de mon entourage assez âgée était très enthousiasmée par la journée sans lunettes que j'avais instaurée dans mon balancier. Parce que faut dire que dans ce livre, j'invente un droit, je donne des règles, il y a tout un jeu de fabrication. Vraiment, je suis comme un enfant avec des Lego. Ouais. Et j'essaye de fabriquer le truc quand même. Et donc il y a une journée ou plusieurs, je sais plus, sans lunettes pour que on puisse se voir comme on se voyait quand on avait 20 ans, c'est-à-dire absolument lisse, puisqu'on est flou. Donc il ne reste que l'éclat du regard, le teint, toutes ces choses, et puis la démarche, si la silhouette n'y est pas, peut-être la démarche y est quand même. Et je sais que voilà, quelqu'un de mon entourage me disait « Ah oui, ça, je suis très très pauvre, il faut absolument la faire. » Mais ça pose bien la question du regard de l'autre, et que c'est quelque chose contre lequel il est difficile de lutter, parce que en même temps il peut y avoir un certain ridicule parfois. On a vu en tant que jeune, quand on était jeune, moi je me souviens d'avoir vu
des vieux de 40 ans
des vieux de 40 ans qui tout à coup se mettaient à danser en étant complètement déchaînés et tout, et je me disais mais qu'est-ce qui leur prend. Et donc bon, il faut respecter les enfants et les jeunes dans leur tabou qu'ils ont aussi par rapport aux personnes plus âgées. Mais c'est aussi des choses qui sont en train de
comment bouger. Dire,
ce sont des choses qui bougent, parce qu'il y a beaucoup de choses sur la représentation, sur le regard, qui sont en train de bouger. Et ce serait dommage que le regard sur la vieillesse ne bouge pas en même temps que bouge le regard sur les femmes, que bouge le regard sur le handicap, que bouge le regard sur... on est en train d'interroger tout ça. Donc d'une certaine manière, là, je choisis ça, mais je pense que si c'est possible, c'est rendu possible aussi par le fait que dans une certaine partie du monde, peut-être encore c'est assez petit, peut-être encore c'est assez timide, mais on essaye de décentrer les choses et de questionner notre regard, et de questionner le jugement de notre regard.
Mais moi, j'ai eu un exemple très concret, très récent. Je suis comme vous, je suis incapable de donner un âge à quelqu'un. Et quelqu'un de mon entourage dont j'ignorais l'âge, je lui aurais donné entre tel âge et tel âge. Et là, c'était son anniversaire et il m'a donc donné sa date de naissance. Ouais. Et c'était beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et je me suis mis à voir ses rides.
Ah C'est drôle.
J'ai le caractère, je sais pas, justement, journée floue, j'ai mis ça sur le coup des lunettes, mais le côté performatif de la norme de l'âge. Mais oui, oui, c'est intéressant le regard de l'autre pour ça.
Oui, ouais. Et puis aussi, il y a, bien sûr, il y a cette histoire du jeunisme. Mais. Ça n'est pas qu'une illusion, ça n'est pas qu'une construction mentale. Il y a une véritable beauté de la jeunesse. Il y a un véritable, une exaltation d'une peau pleine qui se tient. C'est magnifique. Mais moi, ce que je trouve troublant, c'est qu'en fait, quand on est soi-même vieux, et moi, je sais que si je regarde quelqu'un de jeune très longtemps, je pense que je suis comme cette personne. Ça marche comme un miroir. Et donc, je me sens très bien jusqu'au moment où je me croise dans une... Bon, il ne faut pas trop se regarder. Mais c'est très bien. C'est une très bonne leçon. Après tout, il faut le moins possible se regarder. Ce n'est pas intéressant de se regarder.
Alors, quand on parle d'âge, Agnès de Sarthe, on s'inscrit aussi dans le défilé du temps et dans la loi des générations qui se succèdent. Et le Château des Rentiers aborde aussi ce point-là de manière importante par rapport à, effectivement... qui étaient nos parents, nos grands-parents, comment ça se passe, et puis les enfants derrière, mais c'est surtout toute cette question de la transmission aussi qui est très importante.
Et je m'appuie pour en parler sur un geste qui intervient vers la fin du livre, parce que j'ai appris récemment que dans... à l'inverse de ce qu'on fait chez nous, dans certaines civilisations, pour parler de l'avenir, on montre ce qui est derrière soi, et pour parler du passé, on montre devant nous. Et c'est très troublant, parce que nous, quand on dit « Ah, bah, c'était il y a longtemps, mais le pouce derrière son épaule, quoi !» Et la raison pour laquelle c'est inversé dans ces civilisations, c'est qu'ils estiment que l'avenir, on ne le connaît pas, donc c'est ce qu'il y a dans notre dos, ce qu'on
ne voit pas.
Et le passé, c'est ce qui est devant nous,
et c'est ce qu'on peut contempler.
Et ça, c'est pour moi,
c'est fondamental.
C'est un retournement, presque un renversement des valeurs. Ce moment et où on se met dans cet état d'esprit-là, tout prend sens autrement. Et c'est le double mouvement du livre, c'est-à-dire que le livre, il a ce mouvement de que va être notre avenir, et en même temps que cette question que va être notre avenir, finalement, je me dis mais la seule chose que je peux regarder pour y répondre, c'est qu'a été le passé.
Mais oui.
Et donc je me tourne vers mes grands-parents, vers le phalanstère qu'ils ont inventé sans faire exprès, mais aussi vers leur génération qui est leur histoire qui est extraordinairement différente de la mienne, vu que eux, pour eux, la mort c'était derrière, justement.
Ils y avaient échappé.
C'était tous des survivants, ces gens-là. Donc la vieillesse c'était un luxe.
C'était du temps gagné.
Et oui, c'était tous les jours. Et ben, je suis encore là. Oh là là, c'est fou, je suis encore là. Alors que nous, c'est un peu le contraire. Nous, on n'a pas eu, dans notre pays, dans notre... on n'a pas eu cette coupure, ce choc terrible de manière collective. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, il y a des gens qui ont vécu...
Les drames individuels, bien sûr.
Toujours, mais de manière collective, il n'y a pas eu ça. Donc nous, on a tout à perdre en vieillissant, notre génération. Puisque tout était... à peu près bien.
Bien, ouais.
Vieillir, c'est pas être encore là, c'est être de moins en moins là. C'est être de pire en pire. Donc ça aussi, c'est un questionnement. C'est important de l'avoir à l'esprit et de pouvoir continuer à se dire, mais même s'il n'y a pas eu de rupture énorme, on pourrait tout à fait chaque jour ne pas y être. Donc prendre conscience de cette richesse et de cette chance, y compris quand il n'y a pas eu une tragédie. Et puis, il y a ce retour sur l'histoire pour informer le présent. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a au milieu du livre, c'est presque en son milieu physique, il y a toute une approche de... non plus la génération de mes grands-parents, mais la génération de mes parents, puisqu'il y a là une nouvelle rencontre avec ma mère, qui est morte il y a 11 ans, et qui réapparaît à la faveur de ce livre, et que je vais interroger, et que je vais rencontrer, puisque ce qui est assez magique, en fait, une fois que j'avais fabriqué ce livre, cette espèce de dispositif, c'est qu'à l'intérieur de ce dispositif, j'ai découvert assez vite que tout était possible.
Oui.
Je pouvais faire revenir, à un moment, je regarde par la fenêtre et je vois mon grand-père quand il était tout petit. Et c'est pas parce que j'avais rien bu, j'avais fumé aucune substance, c'était une sorte de concentration, et puis de jeu du récit et de travail sur l'imaginaire qui faisait que tout pouvait être convoqué, invoqué, apparaître. Donc une fois que j'ai vu qu'il y avait mon grand-père, sa famille que je connais absolument pas, hein, ses ascendants, la mère de mon grand-père, j'avais aucune idée de ce à quoi elle peut ressembler, mais pourtant elle était là d'une certaine façon. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ah ben c'est formidable, en fait, allons-y. Et donc ma mère est revenue, elle aussi, sous forme, comme je dis, de fantôme internet, puisque le livre s'articule aussi autour d'une archive,
oui,
qui est le témoignage. Qu'elle a livré à la Fondation Spielberg, et que je n'avais jamais vu, et qui est son récit d'enfant caché, qu'elle a livré il y a une vingtaine d'années, et peut-être plus, je ne sais plus, et oui, sûrement plus, mais que je n'avais jamais regardé. Et à l'occasion de ce livre, je me trouve en état, alors que je pensais ne jamais avoir le courage de regarder ces images et d'écouter, c'était possible, ce livre rendait ça possible aussi.
Mmh.
Donc c'est assez intéressant de voir comment la question sur l'avenir ouvre paisiblement la porte du passé.
The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. When from the balcony, way up high, there suddenly came a mournful cry. Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to. Oh, do de do do de do 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 do. We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round applause. But what a great ovation, your interpretation of I never cared much for moonlit skies, I never blinked back at fireflies would do. So Paganini, don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. Listen, Paganini, please play my rhapsody. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and spring it. If the boys are bopping, ain't no need in stopping. doo doo ba doo 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 doo. Yet I heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round of applause. What a great ovation! Your interpretation, ba ba doo ba dee ba doo doo dee dee ba doo dee, ba doo ba doo ba ba doo ba doo ba dee ba da.
Oui, et en plus, ces possibilités qui s'ouvrent, ça fait écho à Agnès de Sarthe avec un roman que vous citez dans ce livre, Le Château des Rentiers, paru aux éditions de l'Olivier, qui est un roman que vous avez traduit, où il est question du paradis et justement du fait que le paradis, bah, c'est un lieu de pensée performative qui rend possible tout ce qui n'était pas auparavant. Et c'est exactement ce que vous venez de nous évoquer.
Oui, c'est un modèle, c'est-à-dire que j'ai quand c'est le livre, c'est dans les papiers de Buttermesser de Cynthia Ozick, qui a aussi été publié aux éditions de l'Olivier et qui est un des plus grands livres qui soit pour moi, mais j'ai eu la chance de le traduire et qui a fonctionné comme une leçon de philosophie pratiquement pendant la traduction et après en lecture et en relecture, parce que ce qu'elle dit du paradis. Alors, paradis, en plus, c'est un mot. En fait, c'est pas un lieu, c'est un
état.
C'est un état et c'est dans, tout se passe dans la langue, y compris dans ce livre. Puisqu'en fait, ça je le dis pas dans ce livre-là, je l'ai détaillé dans un autre livre, et elle-même en parle dans les papiers de Buttermesser, paradis, c'est un acronyme en hébreu. À chaque lettre correspond un mot. Et ce mot n'est pas du tout, ne désigne pas un état, ne désigne pas un lieu. Il désigne un degré d'interprétation, de la compréhension. Donc, c'est très mental, finalement. Et c'est un lieu de l'imaginaire, le paradis. Mais... ça fait déjà plusieurs années que je me pose la question de la fonction de l'imaginaire et de sa place dans nos existences, parce qu'on fait beaucoup l'opposition entre ce qui existe, qu'on peut toucher, et ce qui n'existe pas et qui serait moins important. On passe quand même la moitié de notre vie à rêver, à rêvasser, à imaginer, à fantasmer, et tout ça, donc ce serait...
rien.
Rien, voilà. Ce serait ça ou rien, c'est pareil. Ben... non. Donc et c'est vrai que je trouve, moi, dans cette proposition qu'elle nous livre, une sorte de réponse à mais qu'est-ce qu'on fait tout ce temps-là, on rêvasse, ce qu'on crée, c'est une dimension qui échappe complètement à la temporalité. Qui échappe au possible, qui échappe à la fois à l'espace et au temps. Et c'est ça le paradis. C'est pour ça que le paradis est atteignable. On peut y avoir accès avant même d'y être précipité, si on peut dire.
Mais c'est aussi tout le travail de l'écrivain. Et ça se voit tout à fait, Agnès de Sarthe, dans Le Château des Rentiers, parce que quand je parlais en début de cet entretien de l'importance de l'imaginaire dans l'écriture du livre, plutôt que de se confronter à des documents, à du concret, à de la réalité, vous préférez, vous, prendre le chemin de l'imagination pour décrire un lieu, un endroit, un moment, plutôt que d'aller vérifier sur Internet, dans Wikipédia ou autre, comment c'était. Et ça me renvoie aussi à une remarque que vous aviez eue de la part d'une vieille femme écossaise sur la légitimité à écrire. Et moi, je pense qu'effectivement, oui, l'imaginaire est beaucoup plus légitime que ceux qui sont des vérificateurs permanents. Donc, je crois que c'est un des éléments aussi du livre.
Oui, la question est posée. La question est posée, elle est posée même dans un... dans un dialogue entre moi et moi-même, ce qui veut bien dire que je doute beaucoup, oui, oui. Je ne résous rien, mais la question est posée sous la forme de qu'est-ce qu'on fait quand on imagine, à quoi ça sert, ça sert à rien, est-ce que c'est légitime, et donc c'est une question que je me pose à moi-même vraiment très honnêtement et souvent, et je découvre qu'il y a une connaissance qui est apportée par l'imaginaire et qui est... Alors, est-ce qu'elle est vérifiable? Mais est-ce que...
Est-ce qu'il faut qu'elle soit vérifiable?
Est-ce qu'il faut qu'elle soit... Parce que à quoi ça sert?
Voilà.
Voilà. Ça pose aussi toute la question de qu'est-ce qui est utile. Ça vous entraîne assez loin, ce genre de questions, parce que ça peut déboulonner pas mal de choses finalement, parce que on peut se demander aussi à quoi ça sert de travailler.
Oui, après on arrête tout.
Ouais, on peut ça pousse à la. C'est vrai que c'est bon, mais c'est une toute petite subversion que je propose, mais c'est une subversion vers la contemplation. Mmh. Mais ça n'empêche pas de faire un tas d'autres choses. Mais c'est, disons, une réhabilitation de la contemplation, peut-être.
Alors, ce chemin de l'imaginaire, écrire même des choses qu'on n'a pas vécues, il y a quand même une limite, et vous l'évoquez, Agnès de Sartre, dans le Château des Rentiers, au moment où vous... tomber sur le fameux entretien entre Simone Veil et Marceline Lory d'Enriven, et il y a toute la question effectivement des camps et de l'impossibilité là par contre de...
Alors c'est une impossibilité théorique, mais c'est pas une impossibilité pratique, bizarrement. C'est-à-dire que c'est une impossibilité qui a été énoncée et y compris, et là avec le cas limite, par Primo Levi, qui lui était un rescapé des camps et qui disait qu'il n'était pas crédible en tant que témoin parce qu'il avait survécu. Mais c'est ironique. Ça dit bien qu'il ne peut pas y avoir de paroles qui sortent. Disons que l'extermination, elle a été jusqu'à exterminer la possibilité d'une
de
parole.
Dire, ouais.
C'est là que le massacre, il est absolu, il est complet. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire, selon moi. Et même au contraire. Et comme, disons que là, d'une certaine façon, cette limite qui est posée par Primo Levi, étrangement, donne une licence qu'on n'attendrait pas, selon moi. C'est-à-dire que c'est vraiment un geste, c'est désespéré. Et bien justement, parce que c'est impossible... on peut tenter des choses. Et c'est des essais. C'est comme une fusée lumineuse lancée quand on est sur une île déserte. Mais bon, c'est une série de gestes désespérés, mais pas désespérants. Parce que disons qu'au moins, dans le geste, on manifeste le fait que ça a eu lieu. Parce que sinon, moi j'ai entendu beaucoup de gens dire... et ça a été un débat très important à la fin des années 90 en particulier. Il n'y a que les témoins, il n'y a que les gens qui y étaient qui peuvent en parler. Ben, c'est bien parce que dans quelques années, plus personne n'en parlera et comme ça on sera tranquille. Et pour moi, il y avait une forme de. Comment dire le, on repassait. C'était un deuxième massacre. C'est-à-dire que ça avait eu lieu une fois et puis. Par un coup du sort génial, on allait achever le travail, puisqu'il n'y aurait que les témoins qui pourraient témoigner, donc ça n'existerait plus. Puisqu'on, quand quelque chose, on n'en parle plus, ça n'existe
terminé.
Plus. La mémoire est trop fragile. Et c'est pour ça que moi, je défends beaucoup cette idée que... et quand je parle de tentative, c'est parce que il faut beaucoup de travail, il faut être très exigeant avec ça. Et l'exigence, pour moi, c'est une exigence poétique, c'est pas une exigence technique. ou scientifique, puisque de toute façon, on n'y est pas allé. Mmh. Et on ne se représentera jamais l'horreur que c'est. Et elle en parle merveilleusement bien, Simone Veil, quand elle dit avec beaucoup, et je parle de ça aussi, de ce moment, elle dit, on ne peut pas se l'imaginer. Elle le dit presque avec, n'essayez même pas. Et moi, ça me soulage quand elle dit ça. Je me dis, elle a complètement raison. Quand on croit qu'on y est, on n'y est pas. On est encore à une grande, grande distance. Mais ça n'empêche pas de faire ce geste qui réenclenche la question de la mémoire, la question de la documentation, la question des fragments, la question de ce qui reste, la question de la parole. Et à vrai dire, en accumulant toutes ces sources, il y a quelque chose qui se dessine. Et ça, c'est extraordinairement précieux, même si c'est une dentelle trouée, c'est quand même incomparablement mieux que ce néant qu'on nous propose si on fait la morale du témoin, si on est dans la morale du témoin, là il n'y aura plus rien.
Петушок, петушок, золотой гребешок, масляная головушка, шелковая бородушка. Что ты рано встаешь, что ты громко поешь, детишкам ты спать не даешь.
Alors, il y a plein de choses encore dans le château des Rentiers. Je pense au témoignage de Zed, une danseuse orientale, qui est un personnage extraordinaire qu'on va laisser nos auditeurs découvrir. Mais Agnès de Sarthe, il y a un point aussi que j'aimerais bien aborder avec vous à propos de ce livre. C'est la distinction importante qui existe entre la joie et le bonheur. Être joyeux et être heureux.
Ouais, c'est... ça, c'est aussi, je crois, dans un dialogue de moi à moi-même, où la question de l'avenir, elle pose aussi la question de comment est-ce qu'on se conduit, comment est-ce qu'on se comporte et comment est-ce qu'on vit les choses. Et à un moment, l'alter ego, je ne sais plus si c'est moi ou alter ego, on est deux hein, dans la page, évoque, cherche la maxime, une maxime... racidique, donc qui vient d'une tradition juive assez particulière, très orthodoxe, qui est, cette maxime dit, il faut s'efforcer d'être joyeux. Et en cherchant cette maxime sur son ordinateur, parce qu'il y a beaucoup, je joue beaucoup
oui,
avec
bien
ça,
sûr, avec les écrans.
C'est tellement notre, c'est tellement notre activité sans arrêt, aller allumer le téléphone pour vérifier quelque chose, tomber sur autre chose qu'on n'attendait pas, et elle tombe
sur Prévert.
Voilà, il faut essayer d'être, essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Bon, ce qui est très beau dans la phrase de Prévert, c'est cette histoire d'exemple et d'exemplarité du bonheur c'est une drôle de maxime. Mais à ce moment-là, c'est aussi l'occasion de faire la différence entre le bonheur et la joie, parce que le bonheur, c'est comme une exigence et quelque chose qui dépendrait aussi des conditions extérieures. Alors que la joie suppose que c'est malgré. Il y a toujours un malgré qui est sous-entendu et qui est une forme de d'écologie émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une énorme pollution des passions négatives, de la dépression, qui est étouffante et qui est aussi extraordinairement étouffante pour les générations plus jeunes. Et moi, j'ai vu ça à l'œuvre, vraiment, dans les conseils d'orientation au collège, ce qui est à peu près l'étape la plus déprimante de la vie d'une personne, alors que ça ne devrait pas l'être, et où on commence par dire très vite aux enfants, aux jeunes, de toute façon...
Ce ne sera pas ça, ce ne sera pas ça.
Voilà. Arrêtez de rêver. On commence par dire arrêtez de rêver. Alors moi, je veux dire, commencez par rêver et après on verra bien.
On va s'adapter.
On ne sait pas. On trouvera peut-être une solution. Peut-être que la vie peut vous surprendre. Peut-être que vous allez par hasard trouver une plante qui va sauver. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a toutes sortes de choses. Les bonnes nouvelles ne s'annoncent jamais. Au contraire des mauvaises nouvelles qu'on peut toujours prévoir. Et donc, cette façon d'essayer de vivre en s'efforçant d'être joyeux, c'est aussi pour ne pas peser sur l'autre. Et c'est une ressource intérieure. C'est quoi qu'il arrive. Alors que le bonheur, c'est un peu le défaut. Pour moi, c'est un défaut de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'être heureux. Et être heureux, en général, c'est posséder. Pour être heureux,
droit.
Il faut posséder tout. Voilà. Ouais, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça, il me faut ci, il me faut ça.
C'est la connexion.
Ouais, c'est le luxe au quotidien. C'est-à-dire, être privé, c'est.
Il me manque.
Le monde s'écroule, quoi. Alors que jouer avec ça, essayer d'élaborer à partir de là, j'ai ça, mais j'ai pas ça. Ça me manque, mais j'en rêve. Et bon, tout ça, c'est des.
Finalement.
Voilà, et je me débrouille sans. Et finalement, c'est pas mal. Ce sont des ressorts qui sont importants et qui risquent d'être de plus en plus importants.
Alors, lisez Le Château des Rentiers d'Agnès de Sartre, paru aux éditions de l'Olivier, ça vous mettra sans doute en joie. Merci beaucoup, en tout cas, Agnès de Sartre, pour ce livre et pour cet entretien. Et puis,
merci à vous.
Et puis, j'espère, à une prochaine fois.
Avec
merci.
Plaisir.
Radio Libertaire 89,4 MHz. C'était Agnès de Sarthe qui nous parlait de son roman Le Château des Rentiers, paru aux éditions de l'Olivier. Et dans quelques instants, nous allons retrouver la chronique de Gérard Guégan qui sera consacrée à deux ouvrages, Le Bada de Bernard Stora, paru chez De Noël, et Jean de La Fontaine de Jean-Michel de La Comté, paru aux éditions du Cherche Midi. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz et on retrouve en cette rentrée la chronique de Gérard Guégan qui va nous parler aujourd'hui de deux ouvrages, le dernier livre de Bernard Stora et un ouvrage consacré à Jean de La Fontaine de Jean-Baptiste de La Comté. Alors tu commences par Bernard Stora ?
Bernard Stora, oui. Bon, je commence simplement en disant, pour moi, à cause de ce titre, qui n'est pas sans mystère, parce que le Bada, je ne pense pas que ça dise grand-chose à la plupart des acheteurs potentiels du livre. Donc, ce n'est pas à cause de ce titre. Moi, tout de suite, ça m'a évoqué quelqu'un d'autre. Ça m'a évoqué quelqu'un qui a eu aussi le souci du titre à la fois engageant et à la fois troublant. Et c'est le cas de le Bada, puisque ce Bada-là, surtout le masculin, bon, bref. Et c'est, je pense, à la belle Lurette de Calais, autant que sur le tout. Et je pense que cette référence à Calais ne devrait pas déplaire à Bernard Stora, parce que j'ai bien compris que c'était ce genre de littérature dont il s'était nourri lui aussi, à une époque où on ne jurait que par d'autres courants littéraires comme le nouveau roman, etc., etc. C'est pas leur sujet qui fait la ressemblance, c'est leur façon de cultiver, si je puis dire, l'image chez l'un comme chez l'autre. Et donc restons-en à Bernard Stora, surtout c'est lui le héros du jour. Il y a eu une volonté de faire dans l'image crue, dans l'image colorée. Et c'est très frappant, quoi, je veux dire, parce que on tourne les pages la première fois. Avant, moi, je fais toujours comme ça. Au lieu de tout de suite entrer, de lire depuis la première ligne, je passe au moins 5 ou 6 minutes, selon la grosseur du livre, une dizaine de minutes parfois, à le feuilleter, à chercher des notes, comme des notes de musique. Et ce qui frappe dans le Bada, c'est justement la crudité parfois du propos, autant que les couleurs qui entourent l'histoire de cette famille. Car de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'histoire d'une famille juive entre Alger, Marseille et Nice, fin des années 30, années 40, donc occupation, évidemment, et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire, en l'occurrence, la présence des Allemands en France, et ce qu'on appelle l'occupation. C'est un mot que je n'aime pas, parce qu'occupation, ça renvoie occupé, on aurait dû trouver autre chose que ça. En tout cas, il vaut mieux dire l'invasion, c'est clair que ça. Et donc, cette histoire de cette famille juive, il y a quand même un personnage central. C'est Jean qui s'en distingue, c'est le fils, c'est-à-dire c'est le fils qui ensuite, qui en fait n'a pas été désiré et qui ensuite se retrouve adolescent, contraint au secret, puisqu'il est homosexuel. Tout ça fait beaucoup, on va dire, mais non, pas du tout, parce que c'est tout à fait logique. Que de fois nous avons croisé dans notre jeunesse ce type de situation, c'est-à-dire ce type de situation fondée sur le mensonge, fondée sur l'absence totale de vérité. On ne dit pas qui on est, on ne dit pas ce que l'on est. Et lui, ce qu'il veut être, donc en plus d'être un enfant non désiré, en plus d'être un adolescent contraint lui-même au mensonge, il choisit d'être couturier pour dames. Parce que sa grand-mère disait qu'il avait des doigts de fée. Et pour couturier, pour dame, il n'est pas le manchot. Je ne sais pas si on peut dire ça, beaucoup d'un couturier. Oui, parce qu'en général, ils ont leurs deux bras. Et il est talentueux. Et de fait, évidemment, il est jalousé. Et c'est là où on revient au bada. Parce que le bada, à Marseille comme à Nice apparemment, le bada, c'est une expression, c'est un mot qui désigne, à mon avis, deux choses différentes. Le plus, quand on pèse, par exemple, quand on va au marché, qu'on achète quelque chose et que ça fait... on demande parfois, et on demande souvent même, toujours dans les villes du Sud, de rajouter un bada. Hein. Vous me faites 1,2 kg et je vous paie 1 kg. Voilà, c'est ça. Je le fais avec l'accent. Et c'est aussi le moins. C'est quand on achète, donc, on veut le plus, mais on paie le moins. C'est donc un ensemble de... C'est très dialectique, le bada. C'est le plus et le moins qui se réunissent en un seul mot, une seule action. Donc, évidemment, il va être amené à un moment donné, comme l'occupation est arrivée, 42-43, le sud-est, qui n'était pas occupé à partir du 11 novembre 42, le sud-est, c'est-à-dire en l'occurrence le midi méditerranéen, se retrouve occupé d'abord par les Italiens et ensuite par les Allemands. Et donc il est contraint à vendre cette boutique, qu'il a créé cette petite boutique à Nice qui marche très très bien et qui lui apporte des satisfactions et des amours, évidemment, ce qui est quand même très important. Et il va le vendre à quelqu'un dont on devine assez vite, je dois dire, que c'est une belle crapule, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois le jalouse en tant qu'artiste et en même temps a d'un seul coup un pouvoir immense sur ce jeune homme, sur ce genre, puisque s'il ne vend pas, tôt ou tard il sera dénoncé, tôt ou tard il sera arrêté soit par la milice, qui est très forte à Nice, soit par la SS et la Gestapo, comme on disait. Donc il est en position de faiblesse. C'est un vendeur en position de faiblesse et qui ne peut se rattraper qu'en disant « Bon, écoutez, je vous vends ça 10, mais ça vaut 15 ». Et vous me donnerez 2 de plus, c'est ce que je veux dire. C'est ça, le bada. C'est la transaction où on dit, voilà, c'est vrai, je vais vous faire payer moins, mais je voudrais me rattraper par quelque chose qui sera pas de l'ordre de l'acte notarial, et qui sera de la main à la main. Hein. C'est pour ça, donc, on se retrouve évidemment, le pauvre Jean est roulé, trahi, traité comme une... pestiféré, et il va payer très cher ça, puisqu'il va se retrouver en camp de concentration.
Ah oui.
Oui, ça va, là, il y aura même le retour. C'est vraiment une épopée que ce roman. C'est un roman. C'est pour ça que j'y reviens. Ce n'est pas qu'une histoire de famille. C'est un roman donc sur le secret, mais sur le mensonge aussi. Donc, si on réfléchit ici, si on pense à autre chose que ça, je veux dire, presque en philosophe, eh bien le mensonge, quand on met le mensonge et le secret ensemble, c'est la recherche de la vérité. Et donc il y a aussi ça. Et c'est pour ça que, en plus de parce que musicalement, si j'ai pensé à Calais, l'immense Calais, j'ai aussi pensé, pour l'histoire, donc, à un autre auteur, qui est Simenon. Mais pas le Simenon des Maigret, le Simenon des livres, j'allais dire, les plus réalistes qu'il ait écrits, que ce soit sur la vie en province, les histoires d'adultère et tout ça, et les trahisons. Il y a ce côté où on se retrouve derrière la vitre. Voilà. Et la vitre est sale.
Ouais.
Et donc, ce qu'on voit est sale. Et auparavant, elle a été propre peut-être, mais c'est le roman commence à partir du moment où quelqu'un derrière une vitre regarde le monde tel qu'il est. Et c'est à peu près ce qui se passe avec Jean. Il regarde autour de lui constamment ce qui se passe, et ce qu'il voit n'est pas forcément ce qu'il aurait souhaité voir. Voilà. Et c'est en ça que ça ressemble un tout petit peu à Simenon. En tout cas, moi, j'espère qu'on a compris, même si apparemment
j'ai aimé. Mais...
avec quelques sortes des mots employés, parce que. Moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et donc, il n'y a rien à dire de plus. Quand on est lycée, on a tout dit. Je dis, on peut rajouter quand même, comme si l'auditeur était quelqu'un que je connais et à qui je pourrais m'adresser. Je lui dirais que s'il le lisait, je suis sûr qu'il sera tout de suite captivé, charmé, conquis. Et en tout cas, c'est tout le bien que je lui souhaite. Voilà, Bernard Stora, Lobada, chez...
De Noël, c'est ça?
Merci.
Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Tout le monde ment, le gouvernement ment énormément. Le physiquement, le mentalement, le vulgairement.
Et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement.
Et l'idiotement,
oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement.
Et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman.
Qui ment rarement.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Le sauvagement, le paisiblement, le socialement.
Et l'isolément, l'unanimement. Et l'appartement, c'est deux éléments.
L'illégalement.
L'illégalement. Le pénalement. Oui, le châtiment.
Immédiatement. Et le jugement. Et l'amendement. Et le garnement.
Ment certainement.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Le docilement, l'affranchissement, le laïquement.
Le dévotement, l'éternellement. Et le diablement, oui assurément.
Cet enfermement,
c'est l'enfermement. Le réellement, la troisièmement.
La deuxièmement, sur l'événement. La premièrement, c'est du boniment.
Continuellement.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Si la vache ment, alors le piment. Et si le piment,
alors le léman. Bien sûr la jument. Et le caïman. Dans l'eau le sarment.
Le chevènement.
Le chevènement. Et l'allègrement. Et la droitement.
Et l'extrêmement. Politiquement. L'investissement. Et le parlement.
Ment communément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Le terriblement et le gentiment. Le brutalement
et le doucement. Le tranquillement. Le férocement. L'héroïquement.
L'ordinairement.
Ordinairement. Bien sûr l'armement. Et au régiment.
Le généralement. Le stupidement. Pas de traitement. Le médicalement.
Y'a pas de calmant.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Et on va revenir donc là maintenant au classique, mais c'est un sacré personnage quand même, Jean de La Fontaine. Et là, tu vas nous parler de l'ouvrage qui lui est consacré, qui est fait par De La Conté, c'est ça?
Oui, De La Conté, quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, qui est un... voilà, c'est ce qu'on dit. C'est peut-être un écrivain pour écrivain, en ce sens que quand on le lit et qu'on est soi-même tenté par l'écriture, on a l'impression de découvrir un maître qu'il faudrait imiter. C'est toujours limpide, évident, palpitant. Moi, je trouve ça tout à fait... Tous les livres qu'il a écrits, je ne les ai pas tous lus, mais les portraits, j'ai surtout lu. Que ce soit Racine en Majesté, le livre sur Bossuet, pareil, passionnant parfois, c'est très très fort. Et ce qui est très fort, c'est que, évidemment, De La Conté est un érudit, mais que l'érudition, là, est traitée, non pas par-dessus l'épaule, par-dessus... Non, elle n'est pas maltraitée, elle est traitée. Mais elle est traitée, mais elle n'apparaît pas. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire, je cherchais mes mots. c'est une érudition au service de l'écriture. Donc ça donne une musique tout à fait remarquable. Bon, alors, de La Fontaine, il y a un sous-titre, Portrait d'un pommier en fleurs. C'est un très beau sous-titre.
C'est joli, oui.
Et que je n'expliquerai pas et que je vous laisse le soin de découvrir. Mais ce que je veux dire sur ça, je voudrais surtout commencer comme si je m'adressais à une tablée où on est là en train de manger et de boire, et d'un seul coup, qu'est-ce qui me prend? Je dis, et La Fontaine, qu'est-ce que vous en pensez? Et en général, la plupart du temps, la réaction, c'est « Ah oui, les fables !» Et c'est suffisant. On a tout dit, quoi. Encore que ce soit complètement formidable qu'un écrivain mort il y a 3-4 siècles bientôt évoque encore quelque chose à ses auditeurs. Donc c'est déjà bien. Mais quand même, ce « Ah oui, les fables !» est très réducteur, et surtout qu'en général, il est accompagné d'un sourire pour le moins condescendant, sinon d'une moue dubitative, parce que finalement, c'est quoi ces fables, hein? Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Jean de La Fontaine, mais de Jean de La Fontaine tel que le décrit Jean-Michel de La Conté, c'est-à-dire un homme qui, toute sa vie, a été porté par le désir, que ce soit le désir amoureux, oui, ou le désir de bien faire, ou le désir d'avoir des belles choses ou des beaux endroits, mais le désir l'a porté constamment, ce qui fait qu'il est né, je vais vérifier, en juillet 1621, il est mort en 1695. Et si je compte bien, c'est 74 ans, hein, c'est ça. Ouais. Mmh. Il n'était pas courant quand même dans son temps.
Une belle longévité, oui.
Voilà, c'était une belle longévité. Et de cette belle longévité est accompagnée à ce moment-là d'une dernière tentative amoureuse, mais pas où il n'est pas nécessaire de... d'obtenir de la personne dont on tombe amoureux, d'obtenir qu'elle vous donne tout ce qu'elle peut vous donner. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ce qu'il veut, c'est avoir quelqu'un qui le regarde autant qu'il lui la regarde. Ce qu'il veut, c'est non pas un double, mais une espèce, puisque tout à l'heure je parlais de vitres à propos de Bernard Stora, là c'est le miroir, c'est le derrière le miroir, qu'est-ce qu'il y a, cette jeune fille, parce que c'est la dernière fois où il tombe amoureux d'une très jeune fille, non pas à l'époque, c'était pas très jeune, puisqu'on pouvait, je crois, se marier, je l'ai noté quelque part, j'ai été d'ailleurs stupéfait qu'on puisse se marier à cet âge-là, que déjà la loi et régler cette question. Mais voilà, sous l'Ancien Régime, ça c'est de La Conté qui écrit ça, l'âge minimal pour se marier, hérité du droit romain, était de 14 ans pour les garçons, de 12 pour les filles.
Ah oui.
Donc, tant pire qu'on n'était pas loin du viol consenti ou non consenti. Non consenti, bien évidemment, puisque c'est un viol. Mais en tout cas... dans la tête aussi des jeunes filles de l'époque, et en particulier de celle auprès de laquelle se presse Jean de La Fontaine, elle n'a pas du tout le sentiment qu'elle a en face d'elle un vieillard qui veut simplement lui voler, lui prendre. Sa jeunesse, non, pas du tout, et elle pourrait le relancer, mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout un livre sur c'est aussi un livre sur les fables, pardon, j'allais dire ce n'est pas du tout qu'un livre sur les fables, non, c'est d'abord un livre sur les fables, et il y a des choses merveilleuses, et à propos, justement, des fables, il faudrait lui rendre hommage un jour pour ce... Je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup. et ce sexe vaut bien que nous le regrettions puisqu'il fait notre joie. En s'entendant écrire ça, on trouve pas ça dans la plupart des écrivains qui sont ses proches, qui sont les académiciens, puisqu'il va être à l'académie et il va être élu à l'académie. C'est pas tout à fait ce qu'on entend. Donc c'est vrai, de la Comtesse cite une lettre qu'il a écrite à Saint-Évremond en 1687 et qui était un libertin, philosophe, qui était exilé en Angleterre, donc c'était quelqu'un, on dirait un homme à femme aujourd'hui, et je vous laisse le soin de découvrir. Vous ouvrirez le livre à la page 117 et vous découvrirez.
C'est cruel ça!
Ce que la Fontaine. Mais quand même, il faut acheter le livre.
Oui, 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 non, oui.
Moi aussi, pour faire acheter le livre, non? En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, je dis, c'est un coup, je me suis dit, c'est vraiment bon, je vais dire aux gens, bon, alors voilà, je vais vous parler de ça, s'arrêter, dire, donc vous allez à la page 117, et puis vous comprendrez ce que j'aurais voulu dire. Ce que j'aurais voulu dire.
Tu cultives la frustration.
Voilà. On crée la frustration comme modèle, comme mode d'achat. En tout cas, ce sont deux excellents livres. Je suis persuadé que je connais un tout petit peu Bernard Stora. Il va se précipiter sur Jean de La Fontaine, évidemment. On ne peut que lire Jean
de La Fontaine. Il faut préciser que le livre de Jean-Michel de La Comté sur Jean de La Fontaine, il est paru au Cherche Midi. Ben, merci à toi et puis à la prochaine.
Bon, merci pour tout et bonne journée.
On arrive à la fin de cette émission d'Idéaux et Débats, c'est toujours Radio Libertaire. Je vous conseille vraiment de lire le livre d'Agnès de Sarthe qui s'intitule « Le château des rentiers » et qui est paru aux éditions de l'Olivier. C'est vraiment un très très beau livre. Et bien sûr, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire et portez-vous bien.
Roi du libertaire, roi du libertaire.
Pour ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
pizza, d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.
Spend our money on alcohol.
And now she's gone,
long gone.
And I don't worry,
why?
I'm just sitting on top of the world. If you see me stealing, don't you tell on me. I'm just stealing bags that all used to be.
Time. Oh, don't I know it?
Always had me 5, 6, 7, or even once 9. And now she's gone.
She's gone.
But I don't worry.
You should be worried.
I'm just sitting on top of the world.
Keep talking about living. Let's see if you can.
I can get a woman as quick as you can get a man. And now she's gone,
I'm long gone.
But I don't worry, I'm just sitting on top of the world. Summer, not in the fall. Spend all my money on alcohol. And now she's gone.
Sun
is gone. But I don't worry.
You should be worried.
I'm just sitting on top of the world.
Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette, la belle, la traîtresse était allée à l'opéra. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru porter mon pot de moutarde à Marinette, la belle, la traîtresse avait déjà fini de dîner. Avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. quand j'offris pour étrenne une bicyclette à Marinette. La belle, la traîtresse avait acheté une auto. Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru tout chose au rendez-vous de Marinette, la belle disait je t'adore à un sale type qui l'embrassait. Avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru brûler la petite cervelle à Marinette, la belle était déjà morte d'un rhume mal placé. Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru lugubre à l'enterrement de Marinette, la belle, la traîtresse, était déjà ressuscitée. Avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con.
J'ai des caleçons, tout blanc et tous en blanc coton, pour mettre entre mes pantalons et mes roustons. Juste en haut, un bon élastique, c'est logique et démocratique. Sur mes roupettes, je veux pas voir Gaston Lagaffe, ni voir dépasser des girafes de ma braguette. J'en ai marre, je veux plus rien marquer nulle part, même pas Bordeaux sur mon pinard. J'en ai marre, j'en ai marre, je veux plus rien marquer nulle part, même pas Havane sur mes cigares. J'en ai marre. J'ai une auto où y aurait pas marqué turbo, y aurait pas marqué fuego, ça fait zozo. Juste une plaque minéralogique, c'est logique